ma grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de ces émissions sur les tziganes, nous allons rencontrer Saïmir Mil. Saïmir, je l'avais rencontré il y a, je sais plus, 2 ans, quelque chose comme ça, lorsque j'étais allé avec Esmeralda Romades à une réunion des Roms européens à la maison de Jean Monnet dans la vallée de Chevreuse. Et puis là, au mois de février, alors que je faisais un petit voyage à Paris pour justement rencontrer un certain nombre de mes interlocuteurs pour cette émission, je l'ai rencontré à l'Institut des langues orientales où il enseigne. Alors Saïmir, c'est un drôle de personnage, un intellectuel qui parle beaucoup, mais en même temps c'est un homme de terrain qui va sur les terrains de la banlieue parisienne où il y a des bidonvilles avec des Roms et il œuvre au maximum pour les aider comme il peut. Ben vous allez entendre tout ça, voilà une rencontre avec Saïmir Mil. Alors bonjour, toujours dans le cadre des émissions sur les tziganes, mais est-ce le bon terme, je ne sais pas. J'ai en face de moi Saïmir Mil, qui est, je ne sais pas ton titre exact, mais quelqu'un d'important au niveau d'une association qui s'appelle La Voix des Roms. Bonjour Saïmir.
Bonjour.
Eh ben dis-moi exactement ce que tu fais.
Entre autres, je suis le président de l'association La Voix des Roms, mais c'est pas le plus important. Je suis Saïmir, c'est déjà bien.
Et alors, j'ai commencé encore une fois, parce que c'est pas la première fois, par hésiter sur le terme exact qu'il faut pour, dénommer ce peuple. Doit-on dire tzigane? Doit-on dire rome? Doit-on dire manouche, gypsy? J'en passe, c'est des meilleurs.
Alors, il y a un mot-clé dans ta question déjà. Comment nommer ce peuple? C'est la clé, le mot peuple, c'est la clé pour comprendre ensuite quel mot on utilise et pourquoi on l'utilise. Je ne dis pas quel mot on utilise, quel mot on n'utilise pas. Je dis quel mot on utilise pour quelle réalité. Et tu as utilisé le mot peuple, c'est vrai que nous sommes un peuple. Je dis nous sommes un peuple, mais nous c'est qui nous? Alors ce nous-là, c'est comme tous les nous. Dans chaque « nous », il y a plusieurs « je » dans le « nous ». Et chacun voit ce « nous » à sa manière, avec ses yeux. C'est pourquoi le mot « tzigane », c'est surtout un mot, une appellation qui n'est pas le « nous ». Le mot « tzigane », c'est surtout « eux », en fait. C'est surtout l'appellation qui est donnée par l'extérieur, par les gadgets, à un moment donné. C'était surtout d'ailleurs l'appellation qui était utilisée et qui est toujours utilisée par des savants, par des gens qui s'intéressaient à nous, pour des raisons diverses et variées, pour écrire des bouquins, des études, des choses comme ça, et qui nous ont appelés tziganes, 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 tziganes. Ensuite, le mot est pris aussi de l'intérieur et ce « eux » les tziganes devient aussi « nous » les tziganes. Donc là, je parle du processus historique de comment le mot « tzigane » est venu à nous. Il est venu à nous par « eux », c'est-à-dire par les gadgets qui nous adoraient, nous détestaient, nous frappaient ou nous écoutaient, etc., etc. Et aujourd'hui, le mot tzigane, il est devenu à la fois un exonyme, ce qu'il était au départ, c'est-à-dire l'appellation par l'extérieur, et aussi localement, par groupe, par personne aussi, au sein d'une même famille, on peut trouver deux personnes, un frère qui dit « nous sommes tziganes » et l'autre qui dit « nous sommes roms ». Alors, il faut s'y retrouver. Maintenant, pourquoi je préfère le mot « rom » et dans l'association, on préfère toujours le mot « rom », c'est surtout pour des raisons de clarté. Parce que ce fameux tzigan qui a été désigné par l'extérieur, eh bien, il n'est pas clair. Il n'est pas clair précisément parce qu'il est désigné par l'extérieur. Et on n'est pas tzigan parce que nous sommes. On est tzigan par le regard qui nous est porté par les autres. Et donc, de ce point de vue-là, on peut sortir dans la rue et le premier homme ou la première femme qui passe et qui a une apparence tzigane, selon l'image d'Épinal qu'on a du tzigane, eh bien, elle passe pour une tzigane ou pour un tzigane et c'est un tzigane. Alors que ce n'est pas forcément un rom, ça peut être un savoyard, par exemple, qui vient du terroir, qui est là, la famille est là depuis très longtemps et qui tout au plus parle le patois local, mais qui n'a rien à voir ni avec les Roms, ni avec les Gitanes, ni avec les Manches.
Un rom, c'est un rom, donc, si j'ai bien compris. Mais qu'est-ce qui différencie ton rom ou ton tzigane vu par l'extérieur du savoyard dont tu parlais?
Alors, ce qui nous différencie, sans pour autant nous séparer d'ailleurs, et il y a des phénomènes très intéressants là-dedans, c'est une langue qu'on parle ou qu'on reconnaît comme étant la langue des anciens, qu'on ne parle plus, et qui est la langue romanique, qui est une langue indienne, qui est parlée par la plupart des Roms en Europe. Ce sont, et c'est une culture, c'est difficile de le définir, parce que c'est quelque chose de vivant, en fait. On peut dire, voilà, la fenêtre est constituée des bords qui sont en tel... En bois ou en aluminium, et puis des vitres, et puis de la fermeture, tout ça. La culture, on ne peut pas vraiment la définir, et il ne faut surtout pas la définir, et la cadrer, la poser dans des cases, dire 1, 2, 3 éléments, donc culture. Alors ce sont des références culturelles, des références identitaires, qui sont à géométrie variable, qui ont des éléments qui ont chacun une importance plus ou moins grande dans tel esprit ou dans tel autre, dans telle personne ou telle autre personne, tel groupe ou tel autre groupe, mais il y a un fond commun qui tourne beaucoup autour de cette langue commune, qu'on parle, qu'on la parle ou qu'on ne la parle pas d'ailleurs. Les Sinté, par exemple, ou les Monouches, il y a plus beaucoup de Sinté qui parlent le romanès, mais tout le monde sait que le romanès, c'est leur langue, même quand ils ne la parlent pas.
Il y a toujours des mots qui traînent, j'allais dire.
Il y a toujours des mots qui traînent, tout à fait. Il y a toujours des mots qui traînent, et chez les Gitanes, par exemple, c'est vraiment frappant, parce que les Gitanes ont dû abandonner l'usage du romani, parce qu'ils étaient persécutés en Espagne par Isabelle la catholique. Il y avait des punitions corporelles quand on attrapait des gitanes qui parlaient le romanès, et donc ils ont arrêté de parler cette langue, mais ils ont toujours transmis quelques mots aux enfants une fois qu'ils étaient grands, évidemment, parce que quand ils étaient petits, ils avaient peur de les voir attrapés par la police d'Isabelle la catholique. Mais aujourd'hui encore, même si ils parlent l'espagnol essentiellement, eh bien, ils ont que chaque gitane a quelques mots dans son bagage qu'il connaît, donc il connaît la signification, et c'est très touchant d'ailleurs à chaque fois que j'ai des contacts avec des gitanes. C'est une espèce de, à la fois de test, mais surtout de stratégie de connivence qui se met en place, et qui, les gitanes me demandent par exemple, est-ce que vous dites pani? Je dis oui, on dit pani. Et c'est quoi pani chez vous? Ben, c'est l'eau. Eh ben tu vois, c'est comme chez nous, c'est pareil. Et il y a quelques mots comme ça qu'ils ont gardés, et
je suppose les mots essentiels.
Oui. Ce sont des mots essentiels. Après, tout est relatif. Par exemple, la guitare. La guitare, les gitanes appellent ça bahani. Bahani qui veut dire bachalni. En fait, il y a des phénomènes de phonétique. Le changement, donc la modification de ch qui vient de r chez eux. Et la bahani, c'est celle qui chante, qui émet des sons, en fait. Donc, c'est la guitare chez eux.
Et alors, je vais te poser une question bateau, en bon gadjo que je suis. Pour les gadjés, une des caractéristiques du gitan, enfin du rhum, du tzigane, enfin on ne va pas recommencer le truc à tous les coups, c'est ce goût du voyage. Alors qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Est-ce que ça fait partie des caractéristiques de ce peuple, ou est-ce que c'est une légende?
Alors, c'est un de ces éléments dont je parlais tout à l'heure, en disant qu'il y a des éléments identitaires qui ont une importance plus ou moins grande selon les personnes ou selon les groupes. Le goût pour le voyage est très important chez certains Sinté, par exemple, en France. les mouches, et y compris quand ils sont sédentaires. C'est un peu comme la langue, finalement, parce que la langue aussi, on parle pas... Les Sintes, en région parisienne, par exemple, les Sintes, ils ne parlent pas le romanès. Mais ils savent que c'est leur langue, et quand j'en rencontre, ils me posent des questions sur la langue, pour, justement parce qu'ils sentent qu'il y a là quelque chose qui leur appartient, qui fait partie de leur identité, même s'ils ne l'ont plus en main, ils ne le maîtrisent plus comme outil de communication. Et bien le goût pour le voyage, c'est pareil. C'est pareil pour eux, pour une partie des Sintes, très peu de Gitanes et encore moins de Roms, c'est les trois grands groupes donc de notre peuple. Le voyage fait partie de, oui, fait partie de cette identité particulière, mais numériquement, ce n'est pas, ça ne représente pas grand-chose. Là, je parle de l'identité de Romani dans sa globalité, dans toute l'Europe. Numériquement, ça ne représente pas grand-chose.
Excuse-moi, je t'interromps, mais au niveau de l'Europe, c'est quoi le peuple romanès?
Ah ben, on est entre 10 et 12 millions. Hein. Donc sur les 12 millions de Roms en Europe, il y a, je sais pas, à juger vraiment large, en comptant les quelques pays, France, Angleterre... Belgique, où il y a des Sintes qui bougent plus ou moins, sur 12 millions, on a peut-être 400-500 000 qui roulent ou qui vivent en caravane et qui sont attachés attachés spirituellement, pas forcément physiquement, hein, mais qui voient dans le voyage un élément de leur identité. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont une minorité qu'on dit « non, mais ça n'a rien à voir ». Parce que l'identité romani, elle a aussi ceci de particulier qu'on est très ouvert. On est très ouvert, y compris avec les gadgets. Et entre nous, encore plus.
Alors, je vais t'interrompre tout de suite. Ouais. Parce que ça, c'est un sujet qui n'a jamais encore été abordé dans ces émissions. Et tu me dis « nous sommes très ouverts et aussi » vis-à-vis des gadgets. Mmh. Et alors, j'aimerais que tu développes, s'il te plaît.
Alors, en interne, déjà. Je participais, il y a 4-5 ans, je participais à une conférence internationale à Hambourg sur l'antitziganisme. Il y avait beaucoup de Roms de divers pays, et puis des gadgets, évidemment. Et... c'était au moment où... c'était au mois du Ramadan, en fait. Et au moment de la pause, je prends un sandwich. Il y avait des sandwichs, comme ça, en libre service. Je prends un sandwich, je commence à manger. Et il y a un Rom qui est un Rom polonais, mais en fait, qui a grandi en Allemagne, qui me voit. Il me dit, Saïmir, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je mange, pardi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'est le Ramadan. Et il voit, en plus, j'avais un sandwich jambon beurre. Il dit, tu manges du porc en plus, mais t'es un kafir, toi. T'es pas musulman. Lui, il me disait ça parce qu'en fait, en Allemagne, il était en contact beaucoup avec des Roms de Kosovo qui sont musulmans et qui pratiquent la religion musulmane. Je dis, écoute, musulman, je ne sais pas ce que je suis, ce que je sais certainement en ce moment, c'est que j'ai faim. Donc, je mange, et le porc, je mange du porc, voilà, je pratique aucune religion. Et il me dit, ah oui, mais je comprends. Il dit, en fait, tu crois en Dieu? Je dis, oui, sans être un fanat, quoi, mais oui. Et lui, c'est clair, il dit, tu crois en Dieu, donc tu n'as pas besoin de religion. Voilà une discussion entre Roms qui, on parle de la religion, par exemple, la religion qui est utilisée mais à toutes les sauces pour tous les conflits dans le monde entier, interne, externe, ennemi extérieur, intérêt, tout ça. Eh bien, non, nous, on n'est pas là-dedans. Il y a le... Il y a les Saintes Marie de la Mer. Ben, franchement, moi, j'y suis allé deux ou trois fois. On n'y va pas forcément comme à Lourdes pour prier la Sainte Marie ou la Sainte Sarah. Ou... Oui, il y a une importance de cette dimension-là, mais franchement, la plupart des Roms qui y vont, et des Gitanes et des Montrouches, c'est surtout parce que c'est un lieu de rassemblement de tout le monde. Et on voit des Roms venir de Finlande, du Brésil. La religion est le prétexte de la rencontre humaine. Et voir des musulmans, par exemple, entrer dans une église catholique, allumer des cierges, pourquoi? Parce que c'est la Sainte Sarah, c'est la Sarah la Noire, c'est la Kali Bibi, on l'appelle aussi, ben, ça veut dire que je suis musulman, c'est très bien, mais en fait, ça, c'est en dehors de la sphère du romanipé. Je suis Rome, et je me retrouve avec d'autres Roms dans une église catholique, qui est l'église des gadgets, hein, et dans laquelle les gitanes, ben, jusqu'à très récemment, il y a 40 ans peut-être, qu'ils entrent dedans. L'entrée de la crypte était à part, précisément pour que les gitanes n'entrent pas dans l'église. Donc voilà, c'est cette ouverture-là dont je parle. Et puis l'ouverture aussi quand... un Rome qui rencontre un autre Rome de notre pays, complètement d'apparence différente, d'habits différents, etc. À partir du moment où on reconnaît le Rome en l'autre.
Alors voilà, c'est une question que j'allais te poser, ça. C'est, vous êtes éparpillé dans le monde, vous avez... que ce soit sur le plan des religions, que ce soit sur le plan de la langue, adaptez votre culture aux différents lieux où vous vous êtes adapté. Et malgré tout, vous vous reconnaissez entre vous. Comment cela est-il possible?
Alors, vois-tu... Je n'ai pas de vraie réponse à la question. Sincèrement, je n'ai pas de vraie réponse à la question. Comment ça a été possible? Je pense... Non, je n'ai pas de réponse. Quoi. C'est un dynamisme...
Parce que franchement, Saïmer, quand je te vois, tu ressembles pas à un gitan.
Non.
T'as pas une tête de gitan. J'ai peut-être beaucoup plus une tête de gitan que toi. Et moi, je suis pas gitan. Or, si je me balade au milieu des gitans, bon, va peut-être y avoir une hésitation, mais ils vont très vite savoir que je fais pas partie du peuple.
Ouais.
Et moi, je suis persuadé que c'est l'inverse pour toi.
Moi, c'est
voilà.
L'inverse. Au départ, mais je... avant-hier, à Saint-Denis, je venais au travail, donc il y a une femme rome qui me faisait la manche, et je parle avec elle en Romanie. Et elle me voit comme ça, elle dit, mais tu es rome? Je dis, ouais. Et elle dit, mais ça se voit pas du tout, hein. Et puis on continue la discussion, ça se voit pas du tout, ouais, ça se voit pas du tout, mais... Être rome, ce n'est pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui s'entend d'abord. Là, en l'occurrence, c'était la langue. Et puis, c'est quelque chose qui se sent ensuite. Et ce truc qui se sent, ce n'est pas un truc ésotérique, c'est pas de la magie. C'est des manières de voir le monde, c'est des manières d'être dans le monde, c'est la culture. Voilà, la culture, c'est ça. C'est pas, la culture, ce n'est pas de connaître par cœur tous les peintres du 19e siècle et de distinguer leur style de celui du siècle précédent. Ça, c'est une technique dans la culture. Mais la culture, c'est sa façon d'être, quoi. Sa façon d'être avec soi, avec les autres, avec le monde, avec les connus, avec les inconnus, avec la nature, avec un arbre, avec l'eau, avec... Voilà, il y a des choses qui sont un peu des espèces d'indices.
Najana, Temeronidas. D'accord?
Ramayana, Ramayana, Jagani Romane.
Si tu veux bien, on va quitter le domaine des généralités, même si on est entré dans des précisions dans ces généralités, pour parler un petit peu de pratique. D'abord, je crois que ce serait bien qu'en tant que président de la Voix des Roms, tu nous expliques ce que c'est que la Voix des Roms. Et ensuite, autant que je sache, tu accomplis un certain nombre d'actions sur le terrain en faveur des Roms. Et ça aussi, j'aimerais beaucoup que tu en parles.
Alors, la Voix des Roms, c'est une association que nous avons créée il y a bientôt 8 ans. C'était au printemps 2005. On était 3 au départ, mais 3 personnes de profils assez différents. Enfin, de profils assez différents. Tout dépend. On était tous impliqués à l'université, comme chercheurs, étudiants, enseignants, etc. Puis, on était rond de 3 univers différents. Une Romnie française par son père, moi, Rome d'Albanie, et une troisième qui était une Romanichal d'Angleterre. Et tous les 3, on se retrouve à Paris. Et donc, on crée cette association pour porter la voix des Roms d'une manière différente. Parce que, en France, en fait, on a souvent tendance de parler des gens sans eux, de les aider, de les aimer, de les admirer, de les protéger, de tout ça. Ça porte un nom, c'est paternalisme. Alors, il y a, on est quand même des gens grands, vaccinés. On n'est peut-être pas meilleur que ceux qui parlent de nous, mais on ne doit pas être bien pire. Donc, on se dit, on crée une association et une association qui n'est pas là pour faire de l'angélisme et qui n'est pas là pour diaboliser qui que ce soit. Une association qui n'est pas là pour mendier, pour demander des aides, de tout ça. Qui n'est pas là non plus pour dire nous sommes les meilleurs et on n'a besoin de rien et on peut vous aider et on va vous aider. On monte une association avec une philosophie qui est nous venons vers vous comme des égaux. Nous sommes égaux. Et donc, on voit un certain nombre de problèmes qui se posent. Avant d'intervenir, on les étudie, ces problèmes-là. On se les explique les uns aux autres pour répondre aux véritables problèmes, de sorte à éviter de créer des problèmes nouveaux ou de renforcer des problèmes existants parce que précisément on s'y est mal pris. Et on en était en 2005, ça fait 8 ans, mais le temps passe, mais les choses ne changent pas. En tout cas, pas beaucoup. On parle toujours des Roms en termes de misère sociale, d'expulsion de bidonville. Et Rome, quelqu'un qui est dans un bidonville, et quelqu'un qui est dans un bidonville est Rome, alors qu'il n'en est rien. Et voilà, donc on fait un travail de sensibilisation, beaucoup, de diffusion d'informations sur qui nous sommes, déjà, parce qu'on ne peut pas être aidé par quelqu'un qui ne nous respecte pas. Et on ne peut pas être respecté par quelqu'un qui ne nous connaît pas. Et on ne sera jamais respecté par quelqu'un qui refuse de nous connaître. Celui qui refuse de nous connaître, voilà, il faut le laisser dans son coin. Plus il reste loin, mieux ça vaut. Parce qu'il refuse de nous connaître. Plus il est proche, plus ça posera problème. Donc, cette équation Rome-Bidonville, ça pose problème. Ça pose problème parce que on a trouvé un argument un jour, on a communiqué là-dessus en disant si les Roms sont des habitants de bidonville, les Français sont des personnes dont la santé mentale justifie qu'ils soient sous protection judiciaire. C'est affreux, ce que je viens de dire, mais c'est la première fois que je le formule de cette manière-là. En fait, nous avions dit qu'il y a en pourcentage moins de Roms, on prend la France, en pourcentage, il y a moins de Roms en bidonville que de Français sous système de protection judiciaire pour des raisons de santé mentale. Ils ne vont pas bien, ils ont des pathologies mentales qui... Voilà. Alors, il ne vient jamais à l'esprit à personne de dire « Les Français, c'est un peuple de fous. » Et tant mieux, parce que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi tout le monde, quand il parle des Roms, on montre que cette image-là. Les Roms, c'est les gens des bidonvilles. Mais non, non. En pourcentage, c'est beaucoup moins que les Français qui souffrent mentalement au point de devoir être aidés, accompagnés dans leurs décisions.
Mais alors c'est pas pour te porter la contradiction. J'aime beaucoup d'ailleurs ton raisonnement, mais il n'empêche que il y a un certain nombre de Roms qui arrivent en France, qui pour des raisons juridiques n'ont pas le droit de travailler, ont un permis de 3 mois sans effectivement pouvoir gagner leur vie, qui fuient des conditions de vie assez inacceptables dans un certain nombre de pays où ils risquent à l'heure actuelle quasiment leur vie. Je sais plus où c'est, si c'est en... Alors là, tu peux me reprendre, Hongrie ou Bulgarie, quelque chose, avec les mouvements pro-nazis.
En fait, c'est surtout en Europe centrale, donc en Hongrie, en République tchèque. Ces deux pays-là, c'est vraiment dangereux, donc il y a des cas, effectivement, où on risque... Enfin, on a peur, on craint pour sa vie. Ce n'est pas le cas de la Roumanie et de la Bulgarie.
Oui, d'accord.
Et les Roms qu'on retrouve dans des bidonvilles, ils sont de Roumanie et de Bulgarie, en fait.
Ah.
Ce qui prouve encore une fois que, finalement, ce n'est pas la ruée vers la France, et que ceux qui viennent... Enfin, tous ceux qui pourraient songer à quitter leur pays pour se sentir un peu plus en sécurité, ne le font pas. Ils ne le font pas. Quand ça a été fait en 2000, tout un village, Rome, était venu en France, de Hongrie, du village de Zamoy, c'était surtout dans une démarche de politique. Ils étaient organisés politiquement, ils sont venus en France, ils ont demandé l'asile politique, ils ont obtenu même l'asile politique, alors que la Hongrie à l'époque était candidate à l'Union européenne. Ils ont eu leur statut de réfugié et franchement, la plupart sont retournés en Hongrie après. Ça, c'était juste pour tirer la sonnette d'alarme. Le leader du groupe, il est en Hongrie, il a eu le statut de réfugié politique, mais ce n'était pas pour ça qu'il était venu. Il est venu en France pour dire « Regardez ce qui se passe ». Bon, alors, pour venir aux Roms qui sont dans les bidonvilles, c'était la deuxième partie, en fait, de ce que j'allais dire. C'est que, d'abord, Roms, ça ne veut pas dire bidonville, et bidonville ne veut pas dire Roms non plus. Dans les bidonvilles, il y a des Roumains, des Bulgares, des Turcs, des Maghrébins, de toutes sortes de populations. Et il est vrai que on a... Alors, ce sont des chiffres qui circulent et que je reprends parce que on peut peut-être faire confiance au gouvernement en ce qui concerne le fichage. Hein. Donc, voilà, on parle de 15 à 20 000 personnes qui sont de nationalité roumaine et bulgare, et qui sont dans des bidonvilles, dans des campements insalubres, à droite et à gauche, notamment autour des grandes villes françaises. Bien. L'action de la Voix des Roms se concentre beaucoup sur cette partie-là des Roms. Et elle se concentre même un peu trop. En tout cas, on nous le reproche. On nous le reproche assez régulièrement. On nous dit, mais comment vous pouvez à la fois dire les Roms, c'est pas le bidonville, et à chaque fois que vous intervenez quand même dans le bidonville. Donc, oui, c'est juste une question de priorité et d'urgence. Et puis, au-delà de ça, il y a en France quelque chose de particulier. On dit souvent qu'il y a la France puis le reste du monde, mais ce serait quand même bien que la France regarde un peu le reste du monde pour ne pas être trop à l'écart. Il se passe en France des choses étranges. Genre, de la même manière que des synthés en France, ils disent « Ah non, mais nous, on n'est pas Rome, on ne veut pas être appelé Rome », je suis désolé, mais il n'y a que en France qu'on voit ce type de réaction. Jamais on n'entend de telles réactions avec les synthés aux Pays-Bas, par exemple. Il y en a. Ou en Belgique. Encore moins avec des gitanes en Espagne. Bon, pourquoi en France ça se passe comme ça? Parce qu'il y a des raisons historiques qui font que le jacobinisme français, voilà, il continue encore aujourd'hui. On est français avant tout. On est français, et puis autre chose, il n'y a pas avant, il n'y a pas arrière. Quoi. Donc, revenons à la question de cette partie des Roms qui sont 15 à 20 000 sur au moins 500 000 qu'on est en France. C'est une manière de... Si les Roms n'étaient pas là, si les SDF n'étaient pas là, si les mal logés n'étaient pas là, si les homosexuels n'étaient pas là, mais je me demande bien ce que feraient nos politiques. Parce que franchement, exemple concret et de l'actualité fraîche. On ne peut pas soupçonner les Britanniques d'être des progressistes effarouchés par rapport à la France, qui a donné des exemples au monde avec sa révolution et d'autres violentes tziganes françaises, plutôt. En Angleterre, avec une majorité parlementaire conservateur, 6 heures ou 7 heures de débat au Parlement et le mariage homosexuel est adopté. En France, les pauvres attendent, quand je dis les pauvres, c'est les députés, hein, ils attendent les pains au chocolat au petit matin, alors qu'ils avaient passé la nuit à jouer Scrabble pour certains, et c'est toujours pas fait, hein, et des amendements et tout ça. Tout ça au moment où, au PSA, ça pète. À Petroplus, ça pète. Et plein d'autres. Et le ministre de l'Intérieur, il dit, nous suivons de très près les mouvements sociaux. Et il y a des risques de violence, de je ne sais quoi. Et les Roms, là-dedans, mais on en fait partie. S'il n'y avait pas nous, s'il n'y avait pas les homos, nous sommes des fumigènes. Nous sommes des fumigènes pour des politiciens qui ne font pas de la politique, qui font du show. Et on est obligé, donc, de marteler des messages en leur disant, en les prenant au mot, par exemple, ils ont adopté une circulaire interministérielle, 7 ministres quand même, qui signent une circulaire en mois d'août en disant les campements illicites, comme ils les appellent, je mets ça entre des guillemets bien grands, avant de les évacuer, je le mets aussi entre guillemets, parce qu'on évacue des lieux dangereux, mais là, c'est surtout des expulsions qui se passent, eh bien, selon cette circulaire, il faut faire des diagnostics sociaux, puis accompagner les personnes vers du relogement normal, digne. Bon, à un moment où il y a, on sait, une crise du logement en France. Et seulement, quand les Roms sont expulsés d'un bidonville, à peine sortis de leur baraque, le temps de prendre deux ou trois affaires, les papiers, ce qu'il y a de plus important, quelques vêtements, les bulldozers passent, ils rasent tout. Les habitants de ces baraques fraîchement détruites, ils vont chercher un autre endroit où s'installer. Ils vont planter trois ou quatre tentes. Si une journée passe, une deuxième journée passe sans trop de problèmes, avec la police qui vient, bien sûr, mais qui, ou, s'ils sentent qu'ils peuvent rester là un peu, au bout de 48 heures, tout est reconstruit à l'identique. Est-ce que il n'y a pas là un truc, je dirais, moi, quelque chose de... un savoir-faire, un dynamisme, un optimisme. On a des bâtisseurs. Qu'on traite comme des cas sociaux, oui, mais ils sont des cas sociaux parce qu'il y a une réglementation, comme tu as dit, qui leur interdit, en pratique, de travailler. Et donc, à partir du moment où on ne travaille pas, il est difficile de se loger, et tout le reste qui suit. Difficile de se soigner, tout est lié au travail en France. Tout est lié au travail. Donc, ils n'ont pas la chaîne, dans la chaîne de tous les droits, ils n'ont pas le premier maillon, et quand même, ils se logent, ils se soignent, ils se nourrissent, ils prennent soin de leurs enfants, ils les scolarisent même avec beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a des mères qui refusent, il y a des mères qui les mettent dans des commissariats pour faire classe, comme à Saint-Fond, etc. Mais, voilà, il y a là un dynamisme qu'on essaye de porter à la connaissance de décideurs, surtout locaux, et leur dire, écoutez, cette population-là, vous la voyez comme un problème. Pour chaque problème que vous voyez, nous pouvons vous renvoyer en miroir, comme ça, un début de solution qui vient des personnes elles-mêmes. Et le problème du logement, je parle du problème du logement dans son ensemble, pour les millions de Français mal logés. Il peut être vite résolu si on change de regard. Si on se dit, il y a quand même pas mal de bâtiments publics qui ne servent à rien, qui sont vides, qui ne sont pas forcément... adapté pour l'habitation. Mais justement, prenons les gens qui sont mal logés et disons-leur, voilà, on passe des contrats, vous mettrez ces bâtiments-là aux normes si vous le pouvez, sinon, bah, on prend ceux qui savent faire et mettons en commun les compétences et faisons-le.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous retrouverons Saïmir la semaine prochaine. Je vais dire, comme d'habitude, un très grand merci à Nico qui va monter cette émission. Et à vous, je dis, comme d'habitude, la tchodrome.